Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de beaucoup de choses ce matin, mais d'entrée de jeu, je vous lance tout de suite sur la rentrée scolaire parce que on le sait, là, ça fait quelques jours, selon où vous êtes à Montréal, dans la grande région montréalaise ou au Québec, ben vos enfants sont retournés à l'école soit hier, soit aujourd'hui, soit il y a quelques jours. Une chose est sûre, c'est que où que vous soyez et peu importe l'âge de vos enfants, puis parfois vous n'avez pas d'enfants à vous, mais vous en avez dans votre entourage, puis vous devenez les gardiens, gardiennes parce qu'on est obligé de s'arranger de même, avec les amis, les bonnes personnes, les bonnes âmes qui veulent un peu s'entraider. On n'a pas le choix de faire appel à la communauté, puis ça tombe bien notre sujet ce matin, parce qu'en plus, je vais vous parler de l'opération Sac à dos. Vous savez que depuis une dizaine d'années, je suis marraine du regroupement Partage, et on essaie d'aider la communauté, entre autres pour la rentrée scolaire, avec cette campagne de cette journée-ci. C'est aujourd'hui, on dit, chaque enfant doit avoir une rentrée scolaire digne. Il doit avoir des fournitures scolaires qui ont de l'allure, il doit avoir une boîte à lunch, puis idéalement pas vide mais pleine. Puis c'est pas juste aujourd'hui, c'est toute l'année scolaire. C'est tellement important au Québec. On parle beaucoup du problème de décrochage, mais une bonne raison pour éviter de décrocher, c'est d'être content d'aller à l'école, puis c'est pas vrai que t'es content quand t'as faim. Et malheureusement, je lisais encore des chiffres là-dessus ce matin, puis nos invités vont pouvoir en témoigner, il y a de plus en plus d'enfants qui vont à l'école le ventre vide. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Sylvie Rochette est fondatrice et directrice générale du regroupement Partage. Elle m'explique comment ça se fait chaque année et puis elle me calme parce que moi, je perds patience devant ça, devant nos efforts, Sylvie. Bonjour. Et la pauvreté qui continue quand même, qui est là toujours. En même temps, il y a cet effort de la communauté. Puis je remercie les gens qui étaient là ce matin au Square Victoria. C'est toute la journée, Sylvie, l'opération Sac à dos.
Toute la journée. Donc, les gens peuvent déjà faire des dons immédiatement là, par regroupementpartage.org. Mais ce que je voudrais dire, c'est l'importance d'être là pour nos jeunes aujourd'hui. L'école gratuite au Québec, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ça coûte cher. Puis, il faut penser que les enfants, c'est notre avenir aussi. Et quel que soit le milieu dans lequel l'enfant naît, tout enfant a le droit de se réaliser, tout enfant a le droit d'avoir la même chance, l'équité, comme ses confrères, consœurs de classe. Et déjà, de commencer l'école avec ses fournitures scolaires de base, son sac à dos, sa boîte à lunch, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Isabelle, et également d'offrir des services aux parents, c'est essentiel. Et pour faire ça, ben c'est sûr qu'il y a toujours besoin d'argent. C'est pour ça qu'on fait une collecte aujourd'hui. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que l'enfant ne peut pas être responsable de l'État, de pauvreté ou de la situation financière de la famille, peu importe la raison derrière, l'enfant ne peut pas être responsable de ça. Et on se doit d'être là pour ces enfants-là. Ces enfants-là, là, c'est nos gens, c'est notre société de demain.
Mais c'est beaucoup
urgent,
de monde parce
on est dans l'urgence de les aider maintenant.
Je veux donner quelques chiffres aux gens qui nous écoutent, qu'ils vont encore la rentrée scolaire, puis ils vont encore nous seriner avec le fait qu'il faut faire des dons. Ben oui, savez-vous combien de jeunes ça touche? Il y a près du quart des familles à Montréal avec enfants mineurs là, de moins de 18 ans qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 25 % des Montréalais vivent sous le seuil de la pauvreté. Le décrochage, on le sait, est deux fois plus élevé chez les élèves qui viennent de milieux défavorisés. Puis il y en a 42 % qui sont dans la commission scolaire de Montréal. 42 %, c'est près de la moitié des élèves de l'école publique montréalaise, de la CSDM, qui viennent de milieux défavorisés.
Pour ne compter que celle-là, parce que maintenant, on a tout ce qui est dans le point de l'île, de l'est de Montréal, où, juste pour donner un exemple, ces écoles-là débordent et ils ont eu, au cours des 18 derniers mois, 3500 inscriptions supplémentaires et majoritairement des gens qui sont en situation financière précaire parce que, bon, les loyers coûtent moins cher dans le nord de Montréal et dans l'est de Montréal, donc ils s'en vont vers ce secteur-là. Mais il y a également aussi toute l'immigration. On se doit de continuer à avoir de l'immigration au Québec parce que, bon, pour différentes raisons, au niveau économique et tout ça. Mais si on n'aide pas les enfants migrants qui sont ici et si on les accueille pas correctement et qu'on leur donne pas les outils, ben on va passer à côté de quelque chose d'extraordinaire. T'sais, vous savez, ces enfants-là, aujourd'hui, là, c'est peut-être eux autres qui vont contribuer en grandissant à ce qu'on ne vive plus ce qu'on vit et qu'on n'ait plus de sujets sur, comme on parle ce matin, de pauvreté, mais aussi d'aider les enfants à la rentrée scolaire. Puis c'est pour ça que c'est important d'être là.
Plus généralement, je pense que la rentrée scolaire, c'est devenu stressant pour tout le monde. On s'en parlait avec mon équipe ce matin, puis on se disait, Normand qui me disait, moi, quand j'allais à l'école, d'abord, premièrement, mes parents, il n'y avait pas tout le temps une rencontre de parents, puis on se posait la question, toi, tes parents, sont-tu allés à chaque fois de border, t'amener à l'école? Ben non, on s'arrangeait, c'était simple. On savait qu'on avait une place à notre école, on n'était pas obligé de magasiner ou de quêter une place, comme mon invitée Pauline Ferrand, qui est mère de deux jeunes garçons. J'en reviens juste pas de votre histoire, Pauline. Merci d'être là.
Merci, merci de m'accueillir. Bonjour Isabelle.
Rappelez-nous rapidement ce qui s'est passé, parce que vous, le stress, ça fait au moins une semaine que vous le vivez.
En fait, ça fait bientôt 72 heures maintenant.
Bon, ouais.
Donc, parce que toute l'histoire a démarré à 36 heures de la rentrée scolaire. En fait, on a changé de quartier l'année dernière. Et donc, au mois de juin, je me présente à notre école de quartier dans Rosemont pour inscrire mes enfants à l'école juste à côté. Et puis, donc, je pars de là. On me dit, vos enfants vont être très heureux à l'école Saint-Marc. Et on va les accueillir, on va les chouchouter. Vous inquiétez pas. Je reçois toutes les communications cet été. La liste des effets scolaires, la date, justement, de ces réunions de rencontres, d'informations, etc.
Donc, pour vous, ils sont inscrits à cette nouvelle école.
Les deux. Et là, j'entame le processus de préparation de mes enfants aussi. Leur dire, vous savez, on a changé de quartier, vous allez changer d'école. Mais ça va être le fun. Vous allez avoir des amis dans la ruelle. On va pouvoir y aller à pied. Mon grand, qui a bientôt 9 ans, me dit, ah, je pourrais y aller tout seul à l'école. Je dis oui, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, on va faire ça. Il était fier. J'arrive à vendre mon idée qu'ils vont aller dans cette nouvelle école de quartier et laisser leurs amis de leur ancienne école.
Ce qui est un gros truc quand même pour des enfants.
C'est un gros changement, ouais, surtout que mon plus grand, côté personnel, c'est un enfant déjà qui est anxieux et angoissé de nature. Mon plus jeune a une capacité d'adaptation un peu plus grande. Mais lui, c'est vrai qu'on a ce travail préventif à chaque fois à faire avec lui. Mais comme des milliers d'enfants.
Non, mais aujourd'hui, puis nos enfants, il faut leur faire des pitchs aujourd'hui. On n'a pas le choix, si on veut qu'ils mangent des légumes, il faut leur faire un pitch, si on veut qu'ils changent d'école, il faut leur... Tu sais, c'est ça, là, maintenant.
On s'entend. Ouais. Mais voilà, et donc là, on se dit, dernière fin de semaine, avant la rentrée scolaire, on part en camping, on se dit, génial, on va profiter. On revient lundi midi, lundi 13h, je reçois un appel, le verdict tombe. Le directeur de l'école Saint-Marc m'explique qu'il n'y a pas de place en quatrième année pour mon fils Elliot. Donc... il n'y a pas d'école à me proposer. Il n'y a pas de solution. Verdict, mercredi soir. Mais par contre, il y a de la place pour mon enfant de 5 ans.
Mais voyons.
Et donc là, je me dis, mais donc, en fait, vous avez zéro solution à me proposer. Donc mercredi, mes enfants ne rentrent pas à l'école comme des milliers de petits Québécois. Oui, c'est ça, il faut attendre mercredi soir. Mais je dis, mais est-ce que je fais rentrer mon plus jeune si jamais on le change d'école le lendemain? Comment j'explique ça à mes enfants? Donc le parti pris qu'on a choisi avec le papa, ça a été de les préserver de tout ça. Jusqu'à ce qu'on ait une solution, peut-être mercredi soir.
Que vous ne leur avez pas dit, eux, ils s'en allaient à l'école.
Mais on leur a dit que c'était une journée plus tard.
Mais on fait quoi, donc, hier matin?
Mais c'est ça aussi. Donc là, on s'arrange avec le papa, les amis, le système d'entraide. Moi, j'ai la chance d'être mon propre employeur, donc j'ai cette flexibilité horaire. Mais on s'entend que ça va me coûter quelques nuits blanches en retard à rattraper.
Mais même eux, ils ont pas posé de questions, vos fils, à savoir pourquoi on ne va pas à l'école, nous, ce matin?
Ben, en fait, le petit de 5 ans, c'était correct.
Ouais.
Mais le plus grand, il sentait bien qu'il se passait quelque chose. On lui a juste dit, c'est un peu plus tard dans ta nouvelle école. Et c'est passé, mais hier soir, on s'est assis avec lui, on lui a expliqué toute la situation. Je lui ai lu la lettre ouverte que j'ai écrite sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc. C'était mon cri du cœur, c'était thérapeutique aussi d'écrire tout ça. Mais j'avais besoin de diffuser le message, je suis sûre que je ne suis pas un cas isolé.
C'est sûr.
Donc je me suis dit, j'ai les outils, j'ai les ressources. Et j'ai le tempérament et l'audace et la pugnacité pour aller de l'avant avec ce combat-là, donc j'y vais.
Mais le directeur qui devait vous donner un verdict hier soir, finalement, le verdict, c'était quoi?
On nous a donné un choix, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une autre école de quartier qui était prête à prendre mes deux enfants. Mais là encore, solution temporaire. Parce qu'en fait, mon grand aurait été appartenant à cette école. Mais le plus jeune, j'aurais dû le mettre en libre choix. C'est-à-dire que l'année prochaine, à la fin de l'année scolaire, s'il y a un enjeu de surpopulation... ça va être le premier à être enlevé des listes. Donc peut-être qu'on aurait changé d'école à 5 ans. En maternelle, 5 ans.
C'est pas possible, sérieusement. Là.
Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, lundi, quand j'ai appris ça, je suis passée direct en mode solution. J'ai pris mon vélo, j'ai fait toutes les écoles avoisinantes pour voir quelle école était capable d'accepter mes deux enfants dans les deux niveaux différents. Aucune école avoisinante. Donc là, je me dis, dernier recours, leur ancienne école, qui est à 3 km à côté du métro Beaubien. Je me dis, on y va, peut-être qu'ils ont de la place. J'appelle, ils ont de la place. La directrice est prête à les prendre. Mais ça ne se fait pas. Et ça ne se fera pas pour mercredi matin, parce qu'en fait, ils sont bloqués dans le système scolaire informatique. On ne libère pas leur dossier. Donc, on a la solution qu'on trouve nous-mêmes, mais finalement, on ne peut pas l'appliquer. Et on doit attendre quand même mercredi soir. Et tout en sachant si ça va être possible ou pas. Entre-temps, bien sûr... je diffuse le message, je porte plainte auprès du protecteur de l'élève, je contacte le commissaire scolaire de quartier.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bougé, là, finalement?
Moi?
À part vous, ça vous, je comprends que vous avez été occupée, Pauline, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu vous donner un début de solution?
Non, en fait, la solution, ça a été nous-mêmes. Ouais. Et puis, ça a été vraiment pour mercredi soir. Par contre, je tiens à souligner mais quelque chose de merveilleux, parce qu'il y a toujours du positif dans chaque histoire. C'est la vague de solidarité, de soutien que j'ai reçue. Je m'excuse, je n'ai pas pu répondre à tous les messages que j'ai reçus, mais c'est merveilleux. Toujours des marques d'amour, de soutien, de solidarité, je trouve ça exceptionnel.
Il paraît qu'il y a des gens qui sont allés pour vous cogner à la porte de certaines écoles pour dire « Hey, je connais quelqu'un qui aurait besoin de deux places pour ses enfants. »
Exactement. C'est merveilleux. Ils sont allés voir dans leur propre école.
C'est merveilleux, mais en même temps, on s'entend que c'est assez pathétique.
Ah non, c'est ça.
On est au Québec, là.
Ce que je viens de dire, c'est le côté vert à moitié plein, vert à moitié vide, en fait. Donc, voilà, je me dis, je dis toujours, j'ai eu le sentiment tellement d'être un numéro dans un système, un manque d'empathie, d'humanité. Quand j'ai appelé l'organisation de la commission scolaire de Montréal, on m'a dit, mais de toute façon, c'est une zone urbaine surpeuplée, vous n'êtes pas la seule. Je vous remercie. Je vous remercie, ça fait avancer mon dossier. Et donc, ce soutien-là était capital, je dirais, pour mener ce combat-là, puis pour me dire, j'ai tendance à appeler mes enfants les orphelins de l'école publique, parce que finalement, on ne leur a pas trouvé de place pour eux deux. Et je me dis, mais on n'est pas si seuls que ça. On est des numéros, mais regroupés et solidaires entre nous quand même.
Et donc là, finalement, bon, vous êtes revenus à la case départ, c'est-à-dire que vos fils vont aller à leur ancienne école.
Tout à fait.
Ce qui va vous forcer, qui est beaucoup plus loin, ce qui va vous forcer à reprendre, à mettre le chemin, la voiture, le trafic tous les matins.
Oui, oui, oui. En plus, on traverse la Plaza Saint-Hubert. Si vous habitez dans le quartier ou êtes passé par là ces derniers temps.
C'est en travaux comme à peu près toute la ville.
C'est un grand sacrifice de passer par là matin et soir, mais on le fera pour la stabilité de nos enfants.
Mais votre pitch, là, faut défaire le pitch parce que maman et papa ont dit, hey, ça va être super la nouvelle école, tu vas voir, ça va... parce qu'on est obligé de dire, ça va être beaucoup mieux que ce que tu avais. Là, tu retournes à ce que tu avais.
Exact.
Donc, ils n'ont pas l'impression d'avoir perdu quelque chose? Comment vous avez pu...
En fait, je leur ai dit qu'on ferait le changement l'année prochaine pour leur école. On va voir si... Parce que là, mon plus grand et mon plus jeune, on leur a expliqué qu'il n'y avait pas de place quand même dans leur école. Donc, c'était la solution qu'on avait trouvée pour eux.
Pas de place. Ensemble.
Ensemble.
C'est ça, surtout. Comment peut-on penser séparer...
Deux frères,
deux enfants de la même famille.
Il y a le côté émotionnel, évidemment, mais il y a le côté logistique aussi. Du calendrier scolaire, des journées pédagogiques différentes, deux services différents de garde à payer, etc. On démultiplie tout par deux.
Mais il n'y a pas de gros bon sens dans les écoles?
Non. Puis alors, les effets scolaires. On en parle, les effets scolaires. On a fait quatre listes de ce fait. Deux enfants, quatre listes, parce qu'une liste différente à chaque fois. C'est un coût que nous, on assume.
Ouais. Pauline, merci d'être là. Vous allez rester avec nous, bien sûr. Après la pause, on va aussi avoir l'histoire de Christine. Vous allez voir aussi, il y a du stress. On parle des effets scolaires. L'organisation, là, c'est incroyable. Demain, on aura la visite du ministre de la Famille. Alors, on parlera de conciliation travail-famille. Mais ce matin en particulier, je veux savoir comment ça se passe pour vous, cette rentrée scolaire. Est-ce que vous êtes stressée? Est-ce que vous voyez là, que vous êtes plus anxieux, plus stressée que d'habitude? Ça a été quoi, les complications que vous aviez? Il me semble que c'était plus simple que ça, là, à un certain moment. Tu sais, on se cassait pas le bicycle, comme on dit. T'allais à l'école. Mais aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux problèmes. C'est fou. 514-790-9850. Et pour nous joindre sans frais partout, vous faites le 1-866-790-9850. On est de retour, bien sûr. Ce matin, on parle de la rentrée scolaire qui est de plus en plus stressante. Je vous demande comment ça se passe pour vous. Appelez-nous pour nous le dire. 514-790-9850. On a entendu l'histoire de Pauline qui est maman de deux garçons. Il y a quelques heures de la rentrée, elle savait pas où allaient aller ses enfants, que la commission scolaire et que la direction de son école suggérait de déplacer, c'est-à-dire un dans une école puis l'autre dans une autre école. Ils ont 5 ans et 9 ans. Tu te dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il y a aussi avec nous Christine Marcotte, qui est maman de 4 enfants, tous à l'école. C'est pas simple, hein, Christine? Merci d'être là. Vous êtes en plus une mère en affaires, hein?
Oui, absolument, absolument. En fait, j'ai 5 enfants, mais le bébé a 7 mois, donc ouais, il n'est pas à la garderie. Puis ma petite dernière de 4 ans, on regarde pour la maternelle 4 ans, mais il n'y a tellement pas de place pour les élèves actuellement que les maternelles 4 ans, on oublie le projet aussi. Donc, oui, 4 enfants, c'est rock'n'roll, vraiment.
C'est quoi le gros stress qu'on vit aujourd'hui par rapport au fait qu'avant, on avait l'impression, enfin, on se le disait même pendant la pause, hein, nous toutes, c'était moins compliqué. Pourquoi c'est devenu compliqué comme ça?
Bien, c'est sûr qu'on implique de plus en plus les parents, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais à partir du moment où on a une famille un peu plus nombreuse, c'est-à-dire à partir de deux, juste gérer les rencontres de profs, qui sont importantes, on s'entend. Mais quand c'est les deux en même temps, quand les enfants ne vont pas dans la même école parce qu'il y en a un au secondaire, un au primaire, juste gérer les listes d'effets scolaires, comme le disait Pauline, elle avait une situation particulière. Mais nous, au secondaire, on a su les options dans lesquelles les enfants ont été acceptés lundi et ils rentraient ce matin. Donc, on achète le maximum, mais je ne vais pas m'amuser à acheter des effets scolaires qui va faire que je retourne me faire rembourser parce que mon enfant n'a pas été pris dans telle ou telle option finalement.
Donc, mais pourquoi, pourquoi c'est à la dernière minute comme ça?
J'ai aucune idée de ce qui se passe durant l'été. Je ne connais pas assez le milieu pour savoir ça. Mais je trouve que c'est un stress et pour les enfants qui ne savent pas dans quelle option ils vont être acceptés et pour les parents de fournir. Ouais. Nous, on est chanceux, on est une famille bien nantie. On n'a pas besoin de l'organisme sac à dos. On touche du bois, on est vraiment heureux de ça. Mais c'est incroyable. Je ne peux même pas imaginer les parents qui vivent la pauvreté, qui doivent fournir les...
Vous vous calculez, vous, pour... vous avez 5 enfants, 4 d'âge scolaire, 16, 13, 8, 4 ans.
Oui.
Des âges quand même assez différents. 16
Absolument.
Ans, c'est certains besoins qu'à 4 ans, tu as peut-être moins.
Non,
mais
exact.
C'est quand même du croyage d'effets scolaires.
Oui.
C'est des boîtes à lunch, c'est tout ça. Mais c'est surtout des coûts. Avez-vous calculé, vous, combien ça vous coûte, Christine?
Bien, heureusement, on fait beaucoup de recyclage. Les cartables, les fameux duotang, on n'aime pas encourager le plastique, mais on les achète quand même en plastique parce qu'en carton, ça dure un an. Oui, c'est ça, exactement.
Mais y a-tu toujours les profs qui disent, bien, moi, dans ma classe, c'est rouge, l'autre, dans la classe, c'est... Tu arrives avec des nouvelles couleurs chaque année, improbable que tu cherches, tu fais tes maudits magasins pour trouver le mauve.
Moi, ce que j'ai cherché cette année, c'est la tablette interlignée sans pointillés pour mon petit de troisième année. Je ne l'ai pas trouvé, fait que j'ai envoyé une avec interligné, puis je me suis dit, ben coudonc, tu auras un outil de plus sur ta tablette. Je pense pas que le professeur te mette dehors de l'école, mais il était stressé de ça.
Oh.
T'es sûre, maman, que ça va être correct? Je vais pas me faire chicaner. Je dis, ben non, ta professeure, elle va comprendre. Puis s'il y a de quoi, elle va me dire où en trouver, puis j'irai en acheter, tu sais, relax. On essaie de les calmer. Déjà que la rentrée scolaire, on change de niveau, on change de professeur, on change d'amis dans la classe. C'est déjà beaucoup d'anxiété à gérer.
Les listes de lecture, avez-vous corroyé les livres?
Ah, mon Dieu.
Les avez-vous trouvés, tous?
Pas tous,
non. Ben, c'est ça.
Je me suis donné un petit laps de temps. Je me suis dit, c'est la rentrée aussi pour les parents. Donc, puis même pour les boutiques. Les gens là, qui travaillent dans les boutiques qui vendent ça, là, c'est incroyable les heures qu'ils font. C'est vraiment très stressant.
J'ai Vicky qui m'écrit. Elle dit, ma grande vient de commencer son secondaire 4. Gratuit, pas vraiment. Ayant grandi et en plus uniforme maintenant, secondaire 4. Nouveaux vêtements, donc. Donc, elle en parlait avec une collègue. Elle dit, on se disait une chance qu'on travaille. Là,
oui.
Parce que sinon, on n'arriverait pas.
Non, parce que la rentrée scolaire, c'est pas juste d'acheter la liste scolaire. Hein, c'est les matériels didactiques, c'est les vêtements.
Regarde, elle a fait la liste. Elle a sac à dos, 80$. Vêtements, espadrilles, 500. Frais d'école, 130. 35 et 50. Activités sportives à l'école, 150$.
Oui.
Donc, ça, c'est pas gratuit, visiblement.
Non.
Articles scolaires sur la liste, elle a dépensé 110$ pour un grand total de 975,50$.
Je ne suis pas, je suis pas du tout surprise et je vous dirais qu'il y a une problématique davantage à Montréal. C'est que, comme on a un transport en commun qui est très vaste et tout ça, à partir de la quatrième année ici à Montréal, les enfants ont pas de transport scolaire. Donc, les parents doivent payer les titres de transport. Ça s'ajoute sur la liste, ça. Mais il n'y a pas juste ça, c'est que cette période-là aussi coïncide avec le changement de saison, donc les vêtements d'hiver qui arrivent. Pour les parents dont les deux parents travaillent puis qui n'ont pas des gros salaires, puis qui n'ont pas beaucoup de vacances, les enfants vont au camp de jour, la fin du paiement de camp de jour, la rentrée scolaire, la préparation des vêtements pour le temps de l'hiver, les temps plus froids. Carrément, ça ne fonctionne pas. Les gens y arrivent pas. Puis c'est malheureux parce que l'anxiété que peuvent vivre les parents, les enfants le ressentent aussi. Et
sûr.
Ça n'aide pas les enfants à aimer l'école. Ça n'aide pas les enfants à vouloir s'investir dans leur année scolaire. Moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, la rentrée scolaire, là, pour moi, là, c'était un moment de bonheur. C'était extraordinaire. D'abord, de recevoir ma liste scolaire, qui était pas compliquée.
C'était long, pas
comme
compliqué, c'était pas long, là.
D'aller choisir mon sac, puis d'acheter ma gomme à effacer, puis de regarder les couleurs. J'avais un plaisir fou à faire ça. Aujourd'hui, c'est pas possible. D'abord, quand on reçoit les listes à temps. Et les listes sont tellement compliquées que les parents ont de la difficulté, puis les parents n'ont pas les moyens non plus de le faire. Il y a des solutions simples, là. Pourquoi on pourrait pas revenir à un système de coop comme on a déjà eu?
Dans
moi, je me
écoles,
souviens quand j'étais petite, là. On avait des coops. Puis la plupart du matériel était fourni par l'école. Le parent donnait un montant X qui était beaucoup moins élevé qu'aujourd'hui.
C'est vrai.
Parce qu'on développait un pouvoir d'achat. Mais ça va prendre une organisation pour le faire. Mais c'est possible de réfléchir collectivement à faire ce type de service-là à l'école. Puis de rendre vraiment l'école gratuite puis de permettre à nos jeunes de s'éduquer correctement sans anxiété. Là.
Mais là, on a des problèmes de place. Il y a comme tellement mal... On dirait que c'est mal organisé puis qu'ils sont complètement... T'sais, moi, chaque fois qu'on la connaît, Catherine Arel-Bourdeau est bien fine, mais chaque fois qu'elle parle, j'ai l'impression qu'elle manque d'air. Là. T'sais, c'est tellement un problème, là. C'est devenu tellement une gestion incroyable.
Il y a ça.
On dirait qu'ils ne savent plus comment faire. J'ai l'impression qu'ils sont dépassés par
la situation. Ils sont sous-financés, les commissions scolaires, peu importe la région dans laquelle ils sont. Mais également aussi, on a eu des vagues de migrants. Puis c'est correct qu'on en ait de l'immigration, mais qu'on se donne les moyens comme société de bien recevoir ces gens-là, parce qu'il faut continuer à en avoir. Ces gens-là vivent des situations difficiles. Et on doit les sortir de leur pays pour s'en venir chez nous. Mais est-ce qu'on a préparé notre système à recevoir ça? Est-ce qu'on a préparé tout le système, tant le système de l'éducation que le système de la santé et les autres? On n'est pas prêt. Il faut se permettre de le faire et d'être prêt.
Écoute, il y a des classes qui n'ont pas de profs, qui n'ont pas d'enseignants. Là, il manque d'enseignants dans certaines classes.
Ça aussi, c'est un effet, parce que ce que ça fait aussi de banquer les enseignants, puis d'avoir les enseignants ont souvent leur permanence ou leur contrat en toute fin d'année. C'est pour ça que les lits scolaires aussi arrivent en fin d'année. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont engagés en fin d'année. Ici, c'est difficile. L'enseignant, ici, la dernière minute, bon, il n'y aura pas transmis les lits scolaires non
mais
plus aux parents.
Mais comment ça se fait que les écoles ne savent pas, en juin, combien qu'il y aura d'élèves dans la même classe qui suit deux mois après? Là. On ne part pas un an, on part deux mois.
Ils sont supposés, en plus, parce qu'avec la démographie, je veux dire, moi, quand mes enfants sont nés, ils m'ont posé plein de questions, il y a un certificat de naissance, ils connaissent tout ça, là. Donc, ils sont supposés avoir accès à, OK, ben dans 4 ans, on suppose qu'il va y avoir tant d'enfants dans notre quartier parce qu'on le voit, ils sont nés dans ce quartier-là, que ce soit à Montréal ou ailleurs.
Il faut faire des prévisions, je veux dire, c'est comme n'importe quel business, hein?
Oui, absolument.
Sincèrement, quand on regarde ça, Christine, on dit, pourquoi qu'ils n'ont pas cette vision-là? Puis on ne demande pas de la grande vision à long terme, non. Là, deux mois, là, pour... Tu sais, au pire, envoie un mémo pour dire rappelez aux gens, assurez-vous, veuillez-vous nous confirmer que vous êtes bien inscrit, pas inscrit, mais que vous allez bien venir avec vos enfants. Avez-vous des projets de déménagement? C'est sûr qu'il y a toujours un pourcentage de gens qui ne reviennent pas, d'autres qui arrivent, mais tu sais, c'est quoi?
Il y a beaucoup de causes aussi qui sont dues au fait, quand je parle plus à Montréal, parce que c'est la région que je couvre et que je connais le plus, il y a beaucoup de déménagements qui se fait dans l'été qui n'étaient pas prévus parce que les loyers sont de plus en plus chers. Nous, on voit à Montréal actuellement la population qui a moins de sous se déplacer vers l'est, se déplacer vers le nord.
C'est sûr, Sylvie, mais tout le monde déménage le 1er juillet au
Non,
Québec,
mais c'est ça, c'est ça que je dis. C'était pas une raison. On peut prévoir ça.
Un mois avant, tu sais, l'école finit, mettons, le 20 juin. Si tu déménages le 1er juillet, tu as une méchante bonne idée que tu es dans les boîtes.
Ben, nous, on a des inscriptions là, des gens qui arrivent, là, qui déménagent encore jusqu'au mois d'août. Il y a des gens désorganisés aussi qui le font
c'est
pas.
C'est sûr, mais tu sais,
mais c'est pas majoritaire. Mais c'est pas majoritaire.
Fais des prévisions avec 10 ou 15% à peu près.
Oui, tout à fait.
Tu devrais quand même éviter des situations. Là, on dirait que c'est généralisé, Pauline.
Mais c'est ça, en fait. Moi, j'ai une personne de la CSDM qui m'expliquait qu'en fait, certaines commissions scolaires en dehors de Montréal, c'est au 30 juin, c'est arbitraire, on décide et tous ceux qui arrivent après ne sont pas prioritaires.
Ouais.
À Montréal, on ne fait pas comme ça parce que justement, il y a tout la problématique des nouveaux arrivants à replacer, etc. Et ce qui impose derrière, légalement, à la commission scolaire de Montréal, de payer le transport pour ces enfants-là, ces élèves-là. Donc, on va attendre le dernier moment pour faire une économie d'échelle au niveau du transport scolaire de Montréal. Voilà. Donc, finalement, je reviens sur mon point du côté humain, mais je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant qu'on puisse jouer comme ça. On est des pions, on est des numéros et on nous place au gré de leurs besoins, de leurs effectifs. C'est pareil pour la pénurie des enseignants. Il y a un vrai problème d'anticipation et de gestion. Ça, c'est clair.
Oui, mais on va dépenser... Puis je ne suis pas forcément contre les maternelles 4 ans. Là. Je pense que ça peut aider, effectivement. Puis c'est sans doute un beau projet. Mais visiblement, ça connaît des ratés. On en a parlé la semaine dernière. Je ne ferai pas le débat à nouveau ce matin, mais... C'est quand même 800 000 $ par classe.
C'est peut-être pas le bon moment pour le faire.
Est-ce que c'était la priorité?
C'est
le gros dossier d'éducation de l'automne. Est-ce que c'était la priorité quand on voit qu'il manque d'enseignants, qu'il y a des enfants qui sont séparés, qu'il y a même pas de place dans certaines écoles, alors que dans d'autres, il y en a, puis que les gens le savent même pas. Il y a un vrai, vrai, vrai problème, là. Tu sais, gestion des priorités, des fois, tu te dis, 514-790-9850. On va parler, entre autres, à Daniel après la pause, puis bien sûr, à vous, qui vivez cette rentrée scolaire. Dites-moi donc. Dites-moi comment vous la vivez. On est rendu à un stade où je tutoie mon public, c'est ça. J'ai hâte de vous entendre. À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Chantal. Pour vous, la rentrée scolaire, c'est stressant. Ça a été compliqué, d'après ce que je comprends, hein?
Oui, très compliqué.
Expliquez-nous.
Oui. C'est pas plus facile quand c'est un enfant de 16 ans non plus, là. C'est super difficile. Ma fille a 16 ans, on a déménagé parce qu'on a vendu notre maison. On reste dans la même ville. On n'a pas changé de ville. Mm-hmm. On est en région, on est à Mirabel. Et ma fille a dû changer d'école pour, on n'a pas voulu la faire changer d'école parce que c'était sa dernière année scolaire. Et c'est pénible parce qu'on doit faire des appels et appels par-dessus appels, appeler aux commissions scolaires, passer par un processus d'autorisation pour changer d'école. Je dois appeler à une commission scolaire pour qu'eux, ils m'autorisent à aller dans une autre commission scolaire et ensuite avoir l'autorisation d'aller à l'école. Ensuite, c'est pas terminé. Faut prendre l'autobus, faut avoir un autobus. Faut demander une autorisation pour qu'elle ait accès à un autobus pour l'apporter à un endroit X où moi je peux aller la chercher. Parce que il n'y a pas de navette pour aller la chercher où je suis pour l'apporter à l'école. C'est ça mon problème, moi, là, pour l'instant.
Et puis, juste pour que ça soit clair, je suis pas sûre d'avoir compris. Donc, c'est vous qui vouliez la changer d'école ou c'est l'école? C'est quoi exactement le problème?
Si je suis la politique des commissions scolaires, je serais obligée de la changer d'école.
Parce que vous avez déménagé, mais vous êtes restée dans
exactement.
La même...
Exactement.
Mon Dieu. Fait que là, elle va à quelle école, finalement, votre fille?
Elle va à l'école à Oka.
Oui.
Et j'ai dû mentir à... J'ai dû mentir et ne pas faire mon changement d'adresse pour qu'elle puisse rester à l'école cette année là-bas pour finir sa dernière année, ouais.
Ben, moi j'espère. La pauvre, changer d'école en secondaire 5.
Ouais. Puis c'est quelqu'un de la commission scolaire qui m'a conseillé, ben je veux pas donner ce conseil-là à tout le monde, mais elle dit, faites rien, faites juste vos changements d'adresse au bureau de poste. Puis, mais je suis obligée de me taper une heure aller, une heure retour pour aller la porter à l'école, ouais.
C'est oui, c'est ça, parce que vous avez quand même déménagé.
Le secteur aussi est très grand, Mirabel.
Ben, écoutez, merci Chantal, merci beaucoup. C'est incroyable.
Merci.
Yves est avec nous. Bonjour Yves.
Bonjour Madame Richard.
Vous êtes un ancien directeur d'école de la CSDM, c'est bien ça?
Oui, j'ai œuvré tant au primaire qu'au secondaire, puis j'entends des commentaires depuis tout à l'heure, puis je pense que je suis capable de répondre à certaines questions, là, parce que vous avez dit
oui.
La présidente semblait pas avoir de réponse, mais moi, je pourrais vous dire quelque chose, là.
Bien, on vous écoute. Moi, je voudrais des réponses. Je disais qu'elle semblait manquer d'air, mais des fois, c'est peut-être juste parce que elle est débordée, puis qu'elle veut... Moi, je pense que c'est sûr qu'elle veut bien faire, puis qu'elle n'a plein les bras, là. Ça, on doute pas de ça. Uh-huh. Mais il y a un vrai manque d'organisation, ou alors on est dépassé par la situation, ou on en a trop ses bras.
C'est pas s'il y a un manque d'organisation, je vais justifier deux principaux problèmes à CSDM.
Ouais.
D'abord, un problème de surpopulation dans les écoles. Ça, c'est le premier problème. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on a parlé du petit élève à l'école Saint-Marc, là, les deux, la fratrie.
Ouais.
Là.
Ouais.
L'élève qui arrive à 5 ans, on a une place, on peut avoir une place peut-être pour lui, mais l'autre de 9 ans, on n'a pas de place. Là, tout le monde se dit, ah, ça n'a pas de bon sens, quelque chose comme ça, sauf que Dans la classe de 9 ans, on a des élèves qui sont possiblement là depuis le pré-scolaire et ça fait en sorte qu'on ne sortira pas un élève qui ça fait 4 ans qui est dans l'école pour placer l'autre de 9 ans qui vient d'arriver.
Oui, OK, on comprend.
Ça, c'est tout à fait logique. Fait que dans un cas comme ça, on est obligé de déplacer des élèves et ça, c'est une des problématiques. L'autre chose...
Mais attendez, juste là-dessus, Yves, combien il y a d'élèves dans une classe de 4e année?
C'est de, mettons, 23, mais il y a des conventions collectives. Ça, c'est l'autre chose. Des conventions collectives.
Des fois, moi, ma mère disait, quand il y en a pour 10, il y en a pour 11. Quand il y en a pour 23, il y en a-tu pour 24?
Ça fonctionne.
Ben, je sais bien, c'est pas de même, ça fonctionne, mais peut-être qu'on peut changer comment ça fonctionne.
Ben, dans les conventions collectives, on va prendre un exemple d'un milieu défavorisé, ou même si c'est pas un milieu défavorisé, là, mettons, on dit, il y a 20 élèves qui sont dans cette classe-là, et on permet de dépasser, dans convention collective, d'aller jusqu'à 23. Dans le cas qui nous intéresse, l'élève peut arriver, mettons, en 4e année, 9 ans, et là, dans ce cas-là, il est le 24e ou le 25e à être dans cette classe-là. Dans un cas de même, il est impossible de garder l'élève dans cette classe-là. Il faut absolument le déplacer.
Moi, j'aimerais juste intervenir sur ce point parce que ça me concerne directement et je vous rejoins tout à fait. OK, il y a des conventions collectives, il y a un quota maximum de 23 enfants, puis moi, je veux pas qu'on tasse les autres élèves pour accepter le mien. C'est pas ça l'histoire. Mais quand je me suis inscrite au mois de juin, pourquoi on m'a pas dit il y a un facteur risque. Voilà. Moi, c'est ça. Pourquoi 36 heures avant? Et attendez, je veux juste terminer sur mon idée là-dessus. Mais si justement, c'est tous des enfants qui sont là depuis la maternelle 5 ans, la première année, on le sait que les inscriptions, ça va pas être possible. Donc, il y a eu un phénomène de surinscription.
De surinscription. C'est comme les agences de voyage puis les avions.
Un peu de transparence. Je pense que ça aurait été apprécié.
Est-ce que, je pense qu'il y a de la surinscription dans certaines écoles aussi, là.
Ben normalement, en tout cas, nous, ce que l'on faisait, là, je sais pas, ça s'est peut-être pas fait là, mais nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on avisait le parent. S'il était le 24e, on disait, là, il est le 24e, présentement, on n'a pas de place pour lui. Sauf que je le mets sur la liste, puis s'il y a quelqu'un qui déménage, voilà, qui nous avise pas.
Là, t'es au courant,
là,
au moins.
Là, on pourra le rentrer, mais sauf qu'on avisait quand même, là, pour
ouais,
ça.
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, Yves, c'est qu'au mois de juin, fin juin, mi-juin, mettons, là, pour te donner du lousse, les directions d'école devraient le savoir combien d'élèves ils vont avoir dans telle classe, puis après, t'as 8, 10, 15, mettons 20%, là, pour mettre ça dramatique, là, de surplus qui vont arriver dans l'été, de gens qui arrivent, qui déménagent, qui emménagent. Mais t'as quand même une bonne idée de combien tu vas
non,
en avoir.
Non, mais c'est ça. Si là, on n'était pas en surpopulation, il n'y aurait aucun problème avec ça. Parce qu'on serait capable de placer les élèves. Si j'avais 20 élèves dans chaque classe, j'aurais une marge de manœuvre de 3 en dépassement dans toutes mes classes. Il n'y a pas de problème là, que ça bouge un peu à 20%. Ouais. Comme vous dites, on serait capable de jouer avec ça. Mais les classes sont déjà toutes à 23. Fait que ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Là, on n'est pas capable. Les parents ne nous avisent pas où ils débarquent. Puis à un moment donné, ils arrivent la veille puis ils disent, ben, je viens de déménager dans le quartier.
Hey, savez-vous quoi, Yves, à l'époque, vous, là, je sais pas combien vous étiez dans votre classe hein, quand vous étiez au primaire ou au secondaire, mais nous autres, on était plus que 23. Là.
Hey boy, oui.
Oui, mais
moi, Marguerite Diouville, on était 32 dans ma classe.
Oui, mais Mme Maréchal, au secondaire, là, ils sont 30-32. C'est au primaire.
Au primaire, ouais, quatrième année.
Non, mais au primaire, ce qu'on veut dire, c'est que dans les classes non défavorisées, je pense que le ratio, là, c'est 24, ça peut aller jusqu'à 27. Dans les des milieux défavorisés, c'est 20 jusqu'à 23. On a modifié des ratios parce qu'on dit qu'il faut intervenir de façon précoce au primaire pour les élèves en difficulté. Ça fait partie de ça aussi, les plus petits ratios. Ouais. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Puis pour le secondaire...
Mais moi, je vous avoue, ça me fait toujours gratter quand on parle d'école, d'enfants, d'année scolaire, d'éducation, puis qu'on parle de conventions collectives, horaires d'autobus scolaire. On parle de tout sauf du jeune.
Oui, mais sauf que dans une classe, dans un milieu défavorisé, c'est à un moment donné, on dit parfait, il n'y a pas de problème, on les prend, là. On est rendu à 28 dans une classe d'un milieu défavorisé où on a tant d'élèves cotés, tant de ci, tant de ça. Après, on va avoir un autre débat où on va dire, les profs sont surchargés, vous l'avez déjà dit, je vous écoute régulièrement.
Ben oui, ben oui.
Les profs sont surchargés, les élèves en difficulté, ils en ont trop. C'est pour ça qu'on limite à 23, parce que justement, les milieux...
Mais qu'on engage des profs, Yves, qu'on engage des enseignants, vous allez me dire, il y a une pénurie, bien qu'on en forme plus.
C'est difficile d'enseigner. Puis ça aussi, on en a déjà parlé, c'est difficile d'enseigner et tout ça. Puis je veux revenir sur le secondaire, la dame qui dit nos options, on le sait
oui,
pas. Puis là,
oui,
bon, j'ai une réponse aussi à ça, c'est qu'au secondaire, les ordinateurs en organisation scolaire ont beau essayer d'organiser l'école et tout ça, il y a le même phénomène qu'il y a des élèves qui se présentent, il y en a d'autres qui se présentent pas. Et là, en début d'année, quand ça arrive, à un moment donné, on se retrouve, les ordinateurs sont pas parfaits, on se retrouve avec des groupes à 38, 37, 40 et tout ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut redescendre les groupes au maximum à 33. Fait que là, il faut refaire des horaires d'élèves. Et ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des options.
Yves, je comprends tout ça. Mais
c'est un
combat
de chiffres.
Savez-vous
quoi?
On va sur la Lune. Il y a une station spatiale internationale. Je veux dire, on est capable de faire bien des affaires. Je peux pas croire qu'on n'organise pas l'école. Sérieux.
On est dans un mode de réaction. On n'est pas dans un mode de planification actuellement. Je comprends tout ce que vous dites, monsieur, mais il y a quand même que c'est l'enfant, c'est le cœur. Ouais. Le cœur, la préoccupation au cœur de tout ça, c'est l'enfant. Puis c'est l'enfant qui paye au niveau de l'anxiété. Ouais. Parce que...
Yves, restez à l'écoute toutefois. Restez, on veut prendre vos coordonnées parce que directeurs d'école qui n'ont pas la langue de bois, moi, on s'en cherche tout le temps. Fait qu'on pourra le réinviter.
Oui, on aime ça.
Merci beaucoup d'avoir été franc. Puis c'est le fun de jaser comme ça puis de se faire expliquer comment ça marche parce qu'on le sait pas. Mais visiblement, ce qu'on comprend, c'est qu'il. Malgré tout, tu sais, puis on parle de communauté. On peut peut-être donner des suggestions, tu sais. Ils nous bookent des réunions de parents, là. Ils pourraient peut-être nous demander notre avis. Qu'est-ce qui vous aiderait? Non, non. On nous demande jamais ça, hein,
non.
Christine?
Non.
On va aller à la pause. On vient tout de suite après. Je pense qu'on met le doigt ce matin avec notre discussion sur la rentrée scolaire qui est stressante. Je vous demande d'ailleurs comment ça se passe pour vous. On va parler avec Nathalie dans 10 secondes, mais je pense qu'on met le doigt sur le bobo principal du système scolaire en cette rentrée difficile pour tout le monde. C'est qu'il y a un manque d'organisation flagrant, là. Après, tu sais, pas besoin d'avoir la tête à Papineau pour figurer comment ça peut marcher, là. Un peu de prévision, puis mettez du monde sur le téléphone. Puis des fois, c'est ce qu'on se disait avec Christine, mon invitée, Christine Marcotte, qui est aussi qui est mère de 5 enfants, mais qui est une femme d'affaires.
Oui.
Christine, si vous gériez vos clients comme on gère les enfants dans nos écoles...
Ma business ferme.
Il y a moyen de prévoir, il y a moyen,
oui,
de s'organiser.
Puis mes clientes, mes fournisseurs, je les traite pas comme des numéros, là. Je les traite mieux que ce que les commissions scolaires traitent nos enfants. C'est pas des chiffres, c'est pas les codes, ici et ça. Tu sais, quand tu reçois l'horaire de ton enfant, trouver son nom, c'est déjà difficile parce qu'il marche juste par numéro. Et si moi, je traite comme ça mes clientes, mes fournisseurs, c'est terminé. Ils vont me dire, hey, bye, moi, je m'en vais ailleurs. Tu sais, je veux le contact humain, là. On est là aujourd'hui, là.
Oui, Isabelle, je veux juste dire qu'on parle de surpopulation pour beaucoup de gens dans les écoles. Mais moi, je me souviens, là, je vais avoir 60 ans, là. Je me souviens très bien qu'il y a longtemps, on était beaucoup petits Québécois dans les écoles. C'est pas juste l'immigration qui fait ça. On était autant dans les écoles.
On mangeait du sandwich au pain blanc.
Il y en a eu
des sacs de plastique.
Mais quand il y a eu les grosses familles, moi, j'ai une famille de 7, là. Le village où je restais, dans la rue chez nous, il y avait une famille de 9, une famille de 8, une famille de 11. On était tous à l'école. Puis il y avait beaucoup de monde dans les écoles, mais il y en a eu des écoles, jadis. Est-ce qu'on a transformé trop d'écoles en autre chose aussi? C'est une question qu'on doit se poser aussi.
Tout à fait. Nathalie, bonjour, vous avez 3 enfants?
Oui, 3 enfants.
Comment ça se passe?
Ben, moi, j'ai 2 points. J'ai 1 point pour la facture scolaire qui me coûte plus cher au secondaire qu'au cégep. Puis le 2e point, les transports scolaires qui passent le temps à couper, puis que ça finit que les parents se ramassent à l'école le matin, le soir, ça fait un embouteillage monstre. Ils veulent plus qu'on stationne devant l'école, mais on sait plus où stationner. Puis je me demande à quoi ça sert. L'année passée, je me suis battue pendant 6 mois parce que j'ai toujours eu le transport scolaire. Ils nous ont enlevé le transport scolaire, ce qui fait que, comme les dames ont parlé précédemment, ça cause d'autres problèmes d'horaire. On finit pas tous à 3h, 3h30. Donc, c'est ça. Moi, une facture scolaire du secondaire à 327 $. Puis en plus, cette année, papa est décédé, donc on a des problèmes financiers. J'arrive à l'école, vous avez dit tantôt de parler des enfants.
Ouais.
Moi, je vous dis, ma fille est dans un deuil. Je lui dis probablement que tu vas devoir sortir de son programme parce que j'ai plus les moyens de payer. Elle arrive à l'école, je dois la mettre de côté pour pas qu'elle entende les conversations que j'ai avec les madames qui sont là puis qui veulent faire des arrangements. Puis moi, je leur dis, mais je suis désolée, je ne fais pas d'arrangements. Donc, moi personnellement, je la garderai chez nous 1 semaine de temps. Si vous gardez votre enfant chez vous 1 semaine de temps, la DPJ arrive dans le décor. Puis là, ils vont dire, ben comment ça, madame, votre enfant va pas à l'école. Puis nous, à l'école où elle va, si vous ne payez pas à la journée administrative, ils vous donnent pas ses livres.
Attends, si vous payez pas?
Si moi là, la journée administrative là, c'est telle lettre à telle lettre, c'est cette journée-là. J'arrive, on arrive, ils nous donnent les papiers, ils nous donnent la facture. On l'a pas, là. Ils nous donnent la facture. Après ça, ils nous envoient payer. Et si vous ne payez pas la facture, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de livre donné.
À l'école publique?
Oui, l'école publique. Donc, l'enfant, là, si vous n'avez pas les moyens de payer puis s'ils ne veulent pas prendre des arrangements, votre enfant n'a pas son horaire. Puis, dans le fond, je peux pas dire à ma fille, reste chez nous. Elle, c'est pas son tempérament.
C'est combien, cette facture-là, Nathalie?
327 $.
Par
enfant. Pas habillée, pas rien d'appât. Ben, c'est sûr qu'à cette école-là, ils demandent pas grand-chose comme effet scolaire, là. On paye dans ce 327-là, il y a les photocopies, les sorties scolaires. Ça me fait rire. Je sais pas c'est quoi les sorties scolaires, ils en font pas.
Mais donc, je suis très étonnée que vous ayez une facture à payer à l'école publique, là. C'est quelle école, 300, ça?
Ah oui, puis mes 3.
C'est quelle école, ça, Nathalie?
C'est à la Polyvalente Sainte-Thérèse.
La Polyvalente Sainte-Thérèse envoie des factures aux parents.
Puis si tu payes pas. On les a à la journée même. Puis si vous payez pas, ils vous pas donnent pas ses livres pour l'année.
Très étrange.
Ouais. Puis moi, avant, j'avais les deux. J'ai des jumeaux qui ont 4 ans de plus. Avant, il y allait les trois, là, quand ils rentraient, les deux au secondaire, puis l'autre au primaire, qui était une facture aussi de à peu près 200 $ au primaire, c'était 2000 $ que je mettais sur une carte de crédit que j'avais pas à chaque mois de septembre. Fait que je peux vous dire que l'angoisse des parents, quand tu es dans la maladie et tout ça, je fais affaire avec des organismes aussi, sauf que les organismes, ils veulent avoir une facture. Mais moi, je leur explique, je n'ai pas la facture, je vais l'avoir quand je vais me présenter à l'école à sa date. Fait que les organismes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient de payer la moitié, mais ça, c'est pour une année. L'autre année, ben, c'est passé votre tour.
Mais est-ce qu'elle est dans un programme spécial? Parce qu'il y a des programmes...
Ben, c'est un programme, je vous dirais que c'est à peu près 75 $ de plus que le régulier, là. Donc, c'est un programme de théâtre.
Mmh. Ah oui, mais
le seul plaisir qu'elle a, je me dis, je vais-tu enlever ça, on va finir cette année.
Et j'ai un parent, Antoine, qui m'écrit, là, sa fille va à la polyvalente Sainte-Thérèse, puis ça a l'air que c'est vrai, qu'il vous charge 327$ pour avoir droit à l'horaire si tu payes pas. T'as pas ton horaire d'école.
Moi, je suis très surprise de ça, donc. C'est inadmissible, ben, parce que j'ai été dans beaucoup de comités de parents, de conseils d'établissement, puis en tout cas, dans les écoles où j'étais, là, on n'a jamais refusé un enfant pour ça parce qu'on a des fonds spéciaux. C'est inadmissible que cette école-là fasse ça. C'est inadmissible.
À l'école de mes enfants, ils refusent pas, mais dépêche-toi à payer. Dépêche-toi à prendre un engagement, puis c'est pour des photocopies, puis des livres, puis les sorties scolaires. Moi, j'en ai un qui va dans le multisport, puis ils ont beaucoup de sorties dans le cadre du sport. Ils vont faire du kayak, tout ça. Puis oui, mais on reçoit la facture, comme la dame dit au téléphone, on reçoit la facture aujourd'hui.
Fait que finalement, là, c'est comme les frais accessoires en santé.
Absolument.
C'est devenu des frais accessoires à l'école.
Mais au moins, ils peuvent quand même rentrer si on ne paye pas aujourd'hui parce qu'effectivement, on n'a aucune idée du montant.
Bien, dans les écoles aujourd'hui, on a la liste scolaire qu'on reçoit à payer. On a les frais pour le matériel didactique. Mm-hmm. On a aussi les frais fixes là, pour l'horaire, la photo, les sorties scolaires.
Là, soudainement, tout le monde m'écrit. Ils me disent combien ils payent. Il y a Nancy qui dit que ça lui coûte, école de Villemort à Montréal, une facture de 110 $ de frais à payer. Manuel et photocopie agenda.
Oui.
Les fameux agendas lettres de l'école. Stéphanie, même chose, à l'école secondaire, avant la rentrée, moi, c'est pareil, 380 $. Ça, c'est la facture de son école. 380 $. Ben voyons donc, ça se peut
moi,
pas.
Moi, j'en reviens pas, Isabelle, parce qu'avant, on est tous aussi du monde qui a été dans...
Hey, Carrefour de Varennes, même principe, tu payes une facture puis tu reçois ton horaire après. Mm-hmm. Natacha qui m'écrit ça. Et là, ça rentre, les amis, c'est incroyable, là. Tout le monde paye.
Mais pourquoi on payait? Nos parents payaient pas autant avant, puis on était aussi scolarisés même. Peut-être on avait un super bon service, puis on n'avait pas besoin de payer autant. Je sais pas si où est-ce qu'est le problème. Est-ce qu'on est rendu trop exigeant dans tout ce qu'on a besoin? Est-ce que le système scolaire est sous-financé? Est-ce qu'on a fait un choix de société de dire qu'on va vraiment offrir une école gratuite? Je pense qu'on doit se poser des questions.
Il faut arrêter avec l'école gratuite. Ouais, vraiment là.
Ben, ça existe
André,
pas l'école gratuite. 231 $
à Terrebonne. 231 pièces.
Nos élus n'arrêtent pas de le dire, l'école gratuite.
Oui, il va falloir
qu'ils arrêtent. Ben, il faut qu'on fasse un choix de société pour dire on veut avoir une école gratuite. Dites-nous la vérité, puis faites pour qu'on soit la vérité.
On va leur laver la bouche avec du savon comme à la vieille époque de l'école. Opération Sac à dos, regroupementpartage.org. Merci à vous trois.
Merci.
Merci beaucoup.